Vous dites donc qu'il n'y a pas d'œuvre commune, il n'y a pas de bien commun. Peut-on dire alors que le silence, la pureté de l'air et de l'eau, l'harmonie des paysages ne sont pas des biens communs, puisque leur préservation ne nécessite pas à proprement parler d'œuvre commune, ce que je ne suis pas sûr. Il faut se préserver des zones de silence. Ça fait partie du bien commun. Il faut se construire des monastères. Ça fait partie du bien commun. Oui. Donc, il faut comprendre que le point de vue de l'œuvre commune implique des conditionnements aussi pour permettre une œuvre commune. Mais c'est évident que tant qu'il n'y a pas d'œuvre commune, il n'y a pas de bien commun. Le fait furé intervient. La nature, c'est le bien commun de tous les hommes. Parce que c'est Dieu qui fait luire son soleil sur les bons et les méchants. C'est dit dans l'Écriture. C'est bien. Est-ce que le don de votre âme, c'est votre bien commun? Non. C'est ce à partir de quoi le bien commun peut se faire. La nature, c'est ce à partir de quoi le bien commun peut se faire. Donc, on peut être dans un climat d'hostilité. À ce moment-là, il faudra construire des forteresses pour que le bien commun existe en face de tous ceux qui luttent contre ça. Oui, le bien commun peut se comprendre, du moins l'œuvre à l'égard du bien commun peut se comprendre. La construction de quelque chose de visible, ou tout simplement une défense pour permettre une zone de silence. Comme disait quelquefois quelqu'un, aujourd'hui, c'est le plus grand luxe d'avoir une zone de silence. Il faut mettre des murailles énormes. Avoir la pureté de l'eau. La pureté de l'air. C'est vrai. Il y a beaucoup de lieux où il y a de pureté de l'air. Ici, on a quand même une certaine pureté d'air. Tous les gens qui viennent de Paris le disent. Ils se mettent à respirer. On n'y pense pas beaucoup. Bon, je n'insiste pas plus. C'est important de réfléchir sur la question du bien commun et pas la prendre de façon trop matérielle. Défend un bien commun. On défend des zones de silence, farouchement. Ça fait partie d'un bien commun. Alors, on avait vu ce problème très délicat. Au moins qu'on pose la question que la communauté familiale réclame l'éducation. L'instruction et l'éducation des enfants. Les parents ont un droit sacré sur l'éducation de leur enfant. Le bien commun d'une famille consiste à se gendarmer contre la télévision qui pollue l'air de la famille. Ça fait partie du bien commun. C'est fait qu'il y a un traître sans le savoir, pour que ça puisse plus se faire. Ce gendarmer contre la télévision, ben, c'est quand même maintenir le bien commun. Et envers les jeux, c'est la même chose. Ne pas polluer l'air. Si vous êtes trop énervé, trop agité, et que vous murmurez du matin jusqu'au soir, vous polluez l'air. À ce moment-là, le bien commun consiste à se défendre contre cela. Et écoutez, allez vous reposer 15 jours. Oui, c'est une œuvre de bien commun, ça. On permet aux petits de pouvoir respirer. Or, on sait très bien que quand on est petit, la pollution descend. Elle est toujours très bas, la pollution. Dans une communauté, il y a des degrés de pollution. C'est arrivé à une certaine taille spirituelle. C'est arrivé à une certaine taille. Vous n'entendez plus l'air pollué. Si vous êtes tout petit, rase-motte, vous entendez toujours les murmures des hippopotames. L'air est très pollué. Alors vous allez tenir compte de ça. Puis quand vous élevez très haut, c'est au-dessus. L'air n'est plus du tout pollué. Et vous portez tout le reste. Hein. Il n'est plus pollué. C'est très curieux. Ce serait intéressant à étudier ça. Mais en parallèle avec la pollution de l'air. Ça qu'on dit que c'est très mauvais dans les villes de faire que les enfants soient conduits sur une petite charrette et non pas portés sur les épaules. Bientôt, tous les parents porteront les gosses sur les épaules pour qu'ils n'aient pas l'air pollué. Spirituellement, vous voyez, le sycomore. On a besoin des chasses spirituelles. Pour Dieu, tant pis. Laissons ça, c'est air pollué, on sait. Et si ça monte de trop, ah non, impossible. Rase-motte, tant pis. La famille a un droit sacré. Je dis bien un droit sacré sur l'éducation et l'instruction. C'est pour ça qu'il est digne de se battre pour maintenir une école libre. On doit comprendre ça. Si, par contre, l'État est incapable de pouvoir donner une instruction et une éducation qui soit humaine. Le cas se poserait si l'éducation était vraiment humaine. Humaine, ça veut dire religieuse. Parce que l'humain, le religieux est humain. Un État qui donne une instruction soi-disant neutre, c'est-à-dire une mise entre parenthèses de l'aspect religieux, ne peut être que négative. De facto. La nature horreur du vide. Donc c'est le contraire qui l'emporte. C'est un fait. Donc il y a un droit sacré. Une communauté religieuse, parce que c'est ce que nous avions regardé, une communauté religieuse, notre communauté, quels sont ses droits ? Politique, en tant que communauté religieuse, pas chrétienne, mais religieuse. Des bons sacrés. Quels sont ses droits ? Est-ce qu'on a le droit de vivre en commun, respectant les lois de l'État, et vivre en commun pour intensifier le culte religieux, pour permettre au culte religieux de pouvoir vivre, s'épanouir ? Quels sont les droits d'une communauté religieuse? De toute communauté religieuse. Les droits communs. Je crois que toute communauté religieuse a le droit de pouvoir manifester dans une certaine zone sans nuire au pouvoir politique et à la liberté des autres. Donc, dans un chemin privé, dans une zone privée, de vivre en commun. C'est un droit sacré du religieux. C'est ça la liberté religieuse. Ça, c'est sacré. La liberté religieuse, elle est sacrée. Puisque c'est rejoindre Dieu. Aussi sacré que l'éducation religieuse. L'État a le droit de défendre la liberté des enfants. L'État a-t-il le droit de condamner les sectes? Et le problème là, très délicat. La secte est-elle une communauté religieuse ou pas une communauté religieuse? L'État a-t-il le droit de condamner les sectes? L'État a le droit de condamner les sectes pour maintenir la liberté des familles et maintenir l'autorité de la famille. C'est-à-dire qu'un individu qui n'est pas citoyen libre n'a pas le droit de quitter sa famille indûment sans que la famille soit d'accord. Et donc l'État a le droit d'interdire des jeunes de 16 ans, de 14 ans, d'être pris par des sectes. Alors comment l'État regardera-t-il la secte? Puisqu'il la regarde de l'extérieur. Apparemment, très semblable de la communauté religieuse. Selon l'esprit, c'est tout à fait différent. Parce que le propre d'une communauté religieuse, c'est d'avoir une finalité religieuse, l'adoration à l'égard de Dieu. Et de maintenir par le fait même la liberté ses citoyens, de tous ses membres. Et de ne pas les accepter quand ils n'ont pas encore la liberté politique. De ne pas les accepter sans l'autorisation des parents. On ne peut pas, dans une communauté religieuse, accepter des jeunes qui n'aurait pas encore la liberté du citoyen sans la liberté des parents, sans le consentement des parents. Agir autrement, ce serait un acte contraire à la liberté de la famille et du citoyen. Ce serait un geste de secte. Très important de comprendre ces choses-là. Extérieurement, comment pouvons-nous renifler la secte? Et dire non, c'est pas une secte, c'est une communauté religieuse. Important pour nous. Bien, nécessairement en interrogeant les individus. A-t-on le droit d'interroger les individus? Est-ce qu'un État a le droit d'interroger les individus qui sont mineurs? L'État a-t-il le droit? Ou alors, est-ce que l'État, en faisant ça, tombe-t-il dans une tyrannie, une dictature, qui n'est plus une autorité normale? Ou doit-il rendre l'individu à la famille pour que ce soit le père de famille qui interroge? Et le cas d'un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, est-ce que l'État a le droit d'interroger de cette manière-là? Si l'État est mandaté par la famille, oui. Si l'État n'est pas mandaté par la famille, je ne sais pas. Je pose un point d'interrogation. S'il n'y a pas de litige extérieur, vous voyez, quelqu'un qui, avec un couteau, sort sur la route et puis crie et hurle, même s'il a 14 ans, la police a le droit de l'arrêter. J'entends pas. Non. C'est la finalité. Il n'y a que la finalité. Mais c'est pas toujours commode, hein. Parce que quand on est surchauffé, les gens répètent. Très délicat. Vous voyez? Sauf que j'aime mieux le prendre. Vous voyez? Je ne crois pas qu'il faut accorder trop de pouvoir à l'État par rapport aux sectes. De là, ça viendra jusqu'à la vie religieuse. Je crois qu'il faut majorer l'autorité des parents. C'est du reste dans le sens naturel. L'enfant quitte la famille pour être un citoyen d'État. Vous voyez? Et dans la communauté religieuse, il peut faire partie de la communauté religieuse quand il est citoyen. Il a le droit de choisir. Avant, il est sous l'autorité de la famille. Sauf si la famille délègue. Alors, il peut y avoir des complicités, toujours, sans moindre mal, que laisser plus d'autorité à l'État. Je crois, personnellement. Mais dans les États socialistes, au sens le plus fort, l'État prend les enfants, tout de suite, et les éduque, selon leur éducation nationale. Pas le Front National, mais l'éducation nationale. Alors, selon l'éducation nationale, l'État les éduque dans leur sens. Et vous voyez que là, c'est contraire à la famille. Et parce que c'est contraire à la famille, c'est contraire à l'enfant, qui lui ne peut pas réagir. Je crois que c'est très important de bâtir les droits de la famille jusqu'au bout. Je crois, il faudrait discuter ces choses-là. Je vous pose ça comme point d'interrogation au plan philosophique. Il faut y réfléchir au plan philosophique. Parce que ces questions-là vous seront posées. Il faut d'abord les considérer au plan philosophique. Alors, il y a les lois, c'est sûr, mais la loi, c'est positif. Il faut une réflexion philosophique. Et la philosophie peut, par le point de vue de la finalité, et par le point de vue de la famille. Donc je crois que c'est la famille qui a le droit d'éduquer l'enfant jusqu'au moment où l'enfant est capable de choisir sa finalité. Proprement. La famille n'a plus rien à dire sur le point de vue du mariage. Quand ça a dépassé, quand c'est un âge de citoyen, vous voyez. Un gosse de 13 ans qui voudrait se marier, la famille peut l'interdire. 15 ans. La famille peut l'interdire. Je ne sais pas à partir de quel âge, au point de vue, la cité permet, je ne sais plus. Je l'ai su, mais j'ai oublié ces choses-là. Je ne sais pas, en France, ça va être quel âge que l'État permet le mariage. Combien? 15 ans. Du côté du garçon. Hein? C'est 18 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille. Vous voyez? Donc il peut y avoir là des conflits. Et la famille, alors est-ce que la famille aurait le droit de s'insurger contre l'État de 15 ans? Hein? Vous seriez devant un cas, une famille qui viendrait vous dire, ma fille de 15 ans veut se marier avec telle, qui a 18 ans. L'Église permet à partir de quel âge? Trois canons. Quel âge? 13 ans. 16 ans. 16 ans. Oui, oui, donc il peut y avoir des conflits. Et quelquefois c'est l'inverse. À Fribourg, j'ai vu des cas inverses où l'État interdisait en fonction de gens qui politiquement s'évadaient, étaient reçus en Suisse sans aucune autorisation et qui voulaient se marier. Et la fille avait 18 ans et le garçon avait 20 ans. Donc à ce moment-là, l'Église permet un mariage clandestin. Et c'est très curieux, un mariage clandestin. Donc ça se fait encore maintenant. Parce que si l'État le savait, l'État vous mettrait en prison. Donc il faut risquer sa peau pour sauver la liberté des conjoints. C'est très bien, il faut le faire. Il faut le faire. Quand on est en face de ces cas-là, on doit le faire. Maintenant que je ne suis plus en Suisse, je peux le dire. Quand je suis en Suisse, je me taisais, à un moment donné. Alors, on fait ça, Marie clandestin dans une abbaye. Sans aucun papier sur les registres, sauf des feuilles volantes, cachées dans un coffre-fort. Clandestin. La clandestinée existe, hein, et l'Église veut qu'elle existe pour la liberté des hommes. Et ça, c'est très important parce que c'est là où on retrouve le point de vue philosophique dans toute sa force. Parce que chaque homme a un droit au mariage, même s'il est un immigré politique. Il a un droit au mariage. Et l'Église le maintient. Et l'Église demande au prêtre de le marier. Et le prêtre n'aurait pas le droit de refuser. Attends, j'ai la frousse, vous savez. Hein. J'ai pas envie d'être en prison à cause de vous. Pas le droit. Faisons-le prudemment, le mieux possible, pour ne pas pour éviter la prison. Mais on doit le faire. Ça, c'est la liberté religieuse au-dessus de la liberté politique, au-dessus des droits politiques. Je vous dis ça, aujourd'hui, ça arrive souvent. Parce que je n'étais pas précisément... vous voyez, ce que je faisais en Suisse, ce n'était pas me mettre là-dedans. Mais quand vous vous occupez des loupards, ça existe assez souvent. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Alors, il faut le savoir. Surtout pas dire, ah, l'État interdit, donc je vous interdis. Ah, pas du tout. Comprenez les lois d'Église. Et comprenez profondément au point de vue philosophique. Donc, vous voyez, on est au point de vue de la communauté religieuse. La communauté religieuse a le droit au rassemblement, à la prière commune. Je n'ai pas le droit de dire, je suis une communauté religieuse, je décide de me réciter mon office aujourd'hui sur la place de la Concorde pour donner un témoignage. C'est pas le droit. C'est pas le droit d'arrêter la circulation. C'est le bien commun, la circulation. Au nom d'un bien beaucoup plus profond, beaucoup plus divin, la manifestation d'une communauté religieuse qui existe. C'est pas le droit. Sauf si l'État est consentant. Il dit oui, vous avez le droit de telle heure à telle heure. À partir de minuit, vous pourrez rester l'office sur la place de la Concorde. En évitant tout rassemblement. Comme pour les manifestations. Et les choses politiques qui interviennent avec le milieu religieux. Donc là, il y a une harmonie entre les deux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le droit sacré de la famille, le droit sacré au point de vue communautaire. L'État n'a pas le droit de disperser une communauté religieuse qui n'a pas commis de délit. Les droits, l'État usurpe. Et on a le droit de résister. Je crois que c'est ce qui existe aujourd'hui. Je crois que si l'État reprenait les lois du début du siècle, maintenant, je crois que les jeunes ne marcheraient pas. On dirait, venez, par violence, forcez-nous. Et nous ne voulons pas. Tandis qu'au début du siècle, l'Église a dit acceptez. Perdeau, qui était au couvent de l'île dominicain à cette époque-là, m'a raconté comment ça s'était passé. Les expulsions. À l'île, on s'en allait pas très loin, puisqu'on s'en allait en Belgique. C'est pas très loin, petit voyage. Et le prieur a réuni tous les religieux et leur a dit, l'Église vous permet d'entrer dans le clergé séculier et l'évêque de l'île permet de vous recevoir. Ou bien vous partez, vous restez religieux. Alors, l'ordre vous donne une petite somme pour que vous puissiez partir momentanément. Débrouillez-vous. Et ça, je ne crois pas que ça se passerait comme ça. Ça, c'est une question d'épique. Question de prudence. Je crois que ça se passera autrement maintenant. Du moins, j'espère. J'espère qu'on aurait plus de cran et de dire non, on ne peut pas accepter. C'est un droit sacré. Vatican II nous l'a montré, le droit de la liberté religieuse. Alors, devant un État établi, l'Église demande attention, attention. Vous voyez? Très bien. En Pologne, ou dans beaucoup d'autres États qui sont soumis au marxisme, beaucoup de communautés religieuses ont pâti. Et ne vivent que très partiellement leur vie commune. Dans quelle mesure on doit résister ou pas résister? Je crois qu'on ne peut pas obliger. Oui.
Un groupe de. On est dans le pays catholique en France, sur les Champs-Élysées, un groupe de jeunes se réunit régulièrement, dire le chapelet, pas dans la circulation, mais sur le trottoir, et dit le chapelet en commun, et provoque généralement un attroupement des gens qui prient avec eux.
Oui. C'est très délicat, ça.
Parce que c'est un groupe de musulmans qui a la même chose.
Je ne crois pas qu'ils ont le droit, au sens strict. doit respecter les lois de circulation. Si l'État est consentant, très bien. Ils ont sans doute demandé conseil. Parce que je sais que c'est des questions qui de temps en temps se posent. Et je crois qu'au sens strict, ils n'ont pas le droit. S'ils ne gênent pas l'ordre politique, oui, ils ont demandé conseil. On leur a dit, là, vous pouvez. Oui. C'est évident. Ils sont libres. C'est pas parce que vous êtes plus en voix, vous n'avez pas la majorité. Vous êtes battu en majorité présidentielle. Vous devriez demander à Mitterrand. Oui. Je crois qu'il faut être très strict. Il ne faut pas abuser. Parce que ça appelle les abus. Autant je suis net sur les, voyez, les droits sacrés de la famille pour l'éducation. Les droits sacrés. Une vie religieuse de vivre, on fait de mal à personne. Même circuler en habit, on ne fait de mal à personne. C'est un droit sacré, circuler en habit. J'ai le droit. Je me souviens en Suisse, où il y a des lois qui sont contre la vie religieuse, plus maintenant, mais qui existent au début. Je circulais de temps en temps, rarement, puisque l'évêque demandait de ne pas le faire de trop. Je circulais de temps en temps d'habits en Lausanne. Alors j'avais des moqueries de gens. Alors j'allais auprès d'eux. Je dis, écoutez, je suis un Français. Je croyais que la Suisse était un pays libre. On respectait la liberté des citoyens. On ne respecte pas la liberté des citoyens, alors. J'aimerais savoir comment vous vous appelez, monsieur. Oh, alors je l'ai fait plusieurs fois. C'est ça qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, on vous respecte, puis on vous tait. Parce qu'il dit, ah, le carnaval, c'est pas aujourd'hui le carnaval, oui, tout de suite. C'est un carnaval, il y a un masque, il n'y a pas de masque, là. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, mais là, à ce moment-là, vous pouvez vous habiller avec un turban. Et quand vous avez un musulman qui s'habille comme ça, vous ne dites rien. Qu'un turban sur la tête, vous ne dites rien. Au contraire, regardez, c'est beau. Parce qu'il est catholique. C'est très net. Et vous leur dites ça. Alors, là, ils ne disent rien. Mais je crois que c'est très délicat, je sais bien que c'est très délicat. C'est toujours une prudence. Mais je crois qu'il faut se rappeler les principes. C'est ça qui m'intéresse ici, au plan philosophique. Alors, il peut y avoir des conflits, des zones neutres difficiles. Vous voyez, l'éducation regarde la famille. L'instruction regarde l'État. L'instruction supérieure. Et donc, dès que vous pouvez séparer l'éducation de l'instruction, je crois que l'État a le droit, presque un monopole. Et pourtant, l'Église a toujours voulu des universités catholiques. Pourquoi ? À cause de la philosophie. À cause de la conception de l'homme. Oui, ça va très loin. L'éducation va jusqu'à la philosophie et donc jusqu'à l'université. L'Église l'a maintenue. Et l'Église le maintient. Même si aujourd'hui certains ne le maintiennent pas, Vatican II l'a maintenu. Donc on peut considérer ça. Mais ça, c'est l'éthique chrétienne. Est-ce qu'au point de vue éthique religieuse, je pourrais aller aussi loin, je crois. Aux États-Unis, c'est ce qui existe. Les universités libres vont jusque-là. Donc, vous voyez, il ne faut pas faire un État dans l'État, mais il faut maintenir dans l'État toute cette zone religieuse qui réclame la prière commune, qui réclame la liturgie. C'est au nom de cette prière commune qu'il y a une vie commune, puisque c'est la finalité de la vie commune religieuse. C'est l'office, c'est la prière liturgique. Ce n'est pas la table commune, c'est l'office. On a le droit de demander ça. On a le droit de réclamer ça. Je me souviens, sitôt la guerre, quand je revenais de Paris au Saulchoir d'Étiole, ça m'arrivait assez souvent de revenir avec tel ou tel étudiant. Et une fois, j'étais revenu avec un marxiste. C'est arrivé le soir. Et il venait passer 8 jours, voir ce que c'était. Puis dans la conversation, il m'a dit, oh, tout cela, dans 20 ans, sera complètement disparu. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, l'État interdira des communautés religieuses. Alors, je dis, non, l'État n'interdira pas. Parce que c'est contraire aux droits naturels. C'est contraire à l'éthique religieuse. Alors j'ai essayé de l'expliquer. Mais en tant que marxiste, il ne tolérait pas. Il comprend très bien. En tant que marxiste, mais l'idéologie athée oublie que l'homme est naturellement religieux. Là, vous avez un terrain de bataille légitime. Et vous avez le droit de batailler là-dessus. Sauvegarder l'homme dans toute sa dimension religieuse. Et la même chose pour la famille. L'éducation n'est pas nationale, elle est familiale, en premier lieu. Et l'État ne doit pas supplanter la famille, l'État doit aider la famille, comme l'État devrait aider les communautés religieuses. Si l'État était suffisamment digne de ce nom, il devrait aider les communautés religieuses parce que les communautés religieuses assainissent un pays. Ils enlèvent le paludisme, les fièvres paludiennes. Ils assainissent. Ils permettent à l'homme de découvrir toute sa dimension religieuse. Donc, on n'a aucun complexe à avoir au plan politique. Aucun. Et même avec la vie religieuse. Aucun complexe. Si on fait des complexes, ça prouve qu'on n'est pas entièrement ce qu'on doit être. Faut être très net là-dessus. Faut savoir exactement ce pourquoi on porte la vie. C'est pour tout simplement dans un état qui se matérialise, on ne veut pas accepter cette matérialisation. On n'a pas le droit. Humainement parlant, on n'a pas le droit. Et en tant que citoyen, on doit lutter contre. L'Église peut demander dans certaines circonstances de ne pas porter la vie. En tant que religion, on dépend de l'Église. Il faut même la discuter. Je sais qu'en certains endroits, on a demandé à des religieux de ne pas porter la vie. Alors, est-ce que les supérieurs là, c'est un cas de conscience, les supérieurs? Parce que les membres d'une communauté obéissent. Ils obéissent aux supérieurs qui ont le droit de demander telle ou telle chose. C'est des problèmes de conscience qui sont très importants à réfléchir et comprendre que on n'a pas le droit d'abdiquer certains droits naturels humains. Parce que dès qu'on commence à impliquer, on est fichu. Et on devient un instrument, une chose fausse. C'est très difficile. Mais on est dans des luttes qui exigent hein, philosophiquement de réfléchir là-dessus. Alors on doit y réfléchir. On doit comprendre que l'aspect religieux est naturel et que l'aspect religieux implique toujours des communautés religieuses pour que la liturgie, pour que le port de l'habit soit respecté. Mais quand le Saint-Père demande un signe religieux et autant que possible le port de l'habit, il se fonde sur quelque chose de naturel. Donc, au-delà des régimes, évidemment, en respectant les autorités locales particulières. Mais ici, je me place au point de vue des principes, c'est-à-dire au point de vue philosophique. Donc, vous voyez un tout petit peu le problème. Alors, évidemment, ça peut aller très loin, cela. Ce respect et la non-complicité. Quand on sait qu'un État est purement laïque et qu'il est anti-religieux, on doit être très attentif à garder ses droits de citoyen. Vous voyez, Saint Paul qui à un moment donné fait appel à son droit de citoyen romain. C'est très très curieux. Et il fait ça pour sauvegarder la liberté religieuse. Oui.
Est-ce que le Saint-Père, en tant que pasteur, s'il juge que c'est le bien commun de l'homme de la vie, est-ce qu'il peut promulguer un décret disciplinaire qu'il impose à toute l'Église, passant au-delà de l'autorité de l'Église?
Oui. Donc, vous voyez, je ne vais pas entrer dans les cas particuliers, sauf si, parce que c'est trop délicat, mais comme toujours un cas particulier, il y a la prudence, il y a les piquets. Ici, je regarde les principes de l'autorité, du point de vue de la commune. La liberté religieuse implique la liberté de se réunir et de vivre en commun. Ça va jusque-là, à cause de la liturgie. Et donc le port de l'habit. Ça va jusque-là. Il peut se faire que dans telle ou telle circonstance, l'Église demande. Ça peut se faire. Je ne juge pas là. Je regarde les données au plan philosophique. Alors la prudence peut, en raison de telle ou telle circonstance, faire qu'il y ait telle ou telle chose. Je crois qu'il faut regarder au plan philosophique les droits de la communauté religieuse. Jusqu'au bout. Les droits de l'instruction religieuse. Et les droits de la famille. Il y a tout un autre aspect que je dois regarder au point de vue éthique religieuse. C'est le point de vue de la contemplation. Parce que l'âme religieuse, l'homme religieux, doit être celui qui adore et qui contemple. Or, la contemplation exige certaines conditions de vie. Et c'est là où la communauté religieuse est nécessaire pour permettre la contemplation. Et la contemplation finalise l'homme religieux. Donc, c'est pas de luxe. C'est une finalité humaine. C'est peut-être, vous voyez, la raison la plus forte au plan philosophique d'une communauté religieuse cette communauté soit pour permettre la contemplation.